d'où coulait perpétuellement, même pendant les plus grandes sécheresses, un filet d'eau de la grosseur du petit doigt, qui allait, plus loin, alimenter un large bassin moussu dont on ne nettoyait les pierres verdies que tous les 3 ou 4 ans. Quand tous les puits du voisinage se tarissaient, la Souleyade gardait sa source, de qui les grands platanes étaient sûrement les fils centenaires. Nuit et jour, depuis des siècles, ce mince filet d'eau, égal et continu, chantait sa même chanson pure d'une vibration de cristal. Clotilde, après avoir erré parmi les buis qui lui arrivaient à l'épaule, rentra chercher une broderie et revint s'asseoir devant une table de pierre à côté de la fontaine. On avait mis là quelques chaises de jardin, on y prenait le café. Et elle affecta dès lors de ne plus lever la tête, comme absorbée dans son travail. Pourtant, de temps à autre, elle semblait jeter un coup d'œil entre les troncs des arbres, vers les lointains ardents, l'air aveuglant ainsi qu'un brasier où le soleil brûlait. Mais, en réalité, son regard se coulait derrière ses longs cils, remontait jusqu'aux fenêtres du docteur. Rien n'y apparaissait, pas une ombre. Et une tristesse, une rancune grandissait en elle. Cet abandon où il la laissait, ce dédain où il semblait la tenir après leur querelle de la veille. Elle qui s'était levée avec un si gros désir de faire tout de suite la paix. Lui n'avait donc pas de hâte, ne l'aimait donc pas, puisqu'il pouvait vivre fâché. Et peu à peu, elle s'assombrissait. Elle retournait à des pensées de lutte, résolue de nouveau à ne céder sur rien. Vers 11 heures, avant de mettre son déjeuner au feu, Martine vint la rejoindre, avec l'éternel bas qu'elle tricotait même en marchant quand la maison ne l'occupait pas. « Vous savez qu'il est toujours enfermé là-haut, comme un loup, à fabriquer sa drôle de cuisine !» Clotilde haussa les épaules, sans quitter des yeux sa broderie. « Eh, mademoiselle, si je vous répétais ce qu'on raconte, Madame Félicité avait raison hier de dire qu'il y a vraiment de quoi rougir. On m'a jeté à la figure, à moi qui vous parle, qu'il avait tué le vieux Boutin. Vous vous souvenez, ce pauvre vieux qui tombait du haut mal et qui est mort sur une route ?» Il y eut un silence. Puis, voyant la jeune fille s'assourire encore, la servante reprit, tout en activant le mouvement rapide de ses doigts. « Moi, je n'y entends rien, mais ça me met en rage ce qu'il fabrique. Et vous, mademoiselle, est-ce que vous approuvez cette cuisine-là » Brusquement, Clotilde leva la tête, cédant au feu de passion qui l'emportait. « Écoute, je ne veux pas m'y entendre plus que toi, mais je crois qu'il court à de très grands soucis. Il ne nous aime pas. » « Oh si, mademoiselle, il nous aime !» Non, non, pas comme nous l'aimons. S'il nous aimait, il serait là, avec nous, au lieu de perdre là-haut son âme, son bonheur et le nôtre, à vouloir sauver le monde. » Et les deux femmes se regardèrent un moment, les yeux brûlants de tendresse, dans leur colère jalouse. Elles se remirent au travail. Elles ne parlèrent plus, baignées d'ombre. En haut, dans sa chambre, le docteur Pascal travaillait avec une sérénité de joie parfaite. Il n'avait guère exercé la médecine que pendant une 12aine d'années, depuis son retour de Paris, jusqu'au jour où il était venu se retirer à la Souleyade. Satisfait des 100 et quelques 1000 francs qu'il avait gagnés et placés sagement, il ne s'était plus guère consacré qu'à ses études favorites, gardant simplement une clientèle d'amis, ne refusant pas d'aller au chevet d'un malade sans jamais envoyer sa note. Quand on le payait, il jetait l'argent au fond d'un tiroir de son secrétaire. Il regardait cela comme de l'argent de poche, pour ses expériences et ses caprices, en dehors de ses rentes dont le chiffre lui suffisait. Et il se moquait de la mauvaise réputation d'étrangeté que ses allures lui avaient faite. Il n'était heureux qu'au milieu de ses recherches, sur les sujets qui le passionnaient. c'était pour beaucoup une surprise de voir que ce savant, avec ses parties de génie gâtées par une imagination trop vive, fut resté à Plassans, cette ville perdue, qui semblait ne devoir lui offrir aucun des outils nécessaires. Mais il expliquait très bien les commodités qu'il y avait découvertes. D'abord une retraite de grand calme, ensuite un terrain insoupçonné d'enquête continue, au point de vue des faits de l'hérédité, son étude préférée, dans ce coin de province où il connaissait chaque famille, où il pouvait suivre les phénomènes tenus secrets pendant 2 et 3 générations. D'autre part, il était voisin de la mer. Il y était allé, presque à chaque belle saison, étudier la vie, le pullulement infini où elle naît et se propage au fond des vastes eaux. Et il y avait enfin, à l'hôpital de Plassans, une salle de dissection, qu'il était presque le seul à fréquenter, une grande salle claire et tranquille, dans laquelle, depuis plus de 20 ans, tous les corps non réclamés étaient passés sous son scalpel. Très modeste d'ailleurs, d'une timidité longtemps ombrageuse, il lui avait suffi de rester en correspondance avec ses anciens professeurs et quelques amis nouveaux, au sujet des très remarquables mémoires qu'il envoyait parfois à l'Académie de médecine. Toute ambition militante lui manquait. Ce qui avait amené le docteur Pascal à s'occuper spécialement des lois de l'hérédité, c'était, au début, des travaux sur la gestation. Comme toujours, le hasard avait eu sa part, en lui fournissant toute une série de cadavres de femmes enceintes, mortes pendant une épidémie colérique. Plus tard, il avait surveillé les décès, complétant la série, comblant les lacunes, pour arriver à connaître la formation de l'embryon, puis le développement du fœtus, à chaque jour de sa vie intra-utérine. Et il avait ainsi dressé le catalogue des observations les plus nettes, les plus définitives. À partir de ce moment, le problème de la conception, au principe de tout, s'était posé à lui, dans son irritant mystère. Pourquoi et comment un être nouveau? Quelles étaient les lois de la vie, ce torrent d'êtres qui faisait le monde? Il ne s'en tenait pas au cadavre. Il élargissait ses dissections sur l'humanité vivante, frappé de certains faits constants parmi sa clientèle, mettant surtout en observation sa propre famille, qui était devenue son principal champ d'expérience,